La grâce et la foi. J'ai pensé relire avec vous ce matin un texte très connu qui nous parle de la toute-puissance de Dieu, de Jésus-Christ, et qui nous parle de confiance et de foi manifestée par un des disciples, l'apôtre Pierre. Ce texte est souvent appelé la pêche miraculeuse dans Luc 5. On pourrait l'appeler aussi une rencontre inoubliable. L'apôtre Pierre s'est retrouvé à genoux devant celui qu'il a mieux connu. Mieux connaître Jésus-Christ, c'est mon plus grand besoin. Luc 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une très grande quantité de poissons. Leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus enseigne. Si nous demandons parmi nous, si nous demandons autour de nous ce que Jésus a fait en venant sur terre, il est probable que l'enseignement ne vienne pas très vite. On va plutôt parler des miracles et de tout le bien qu'il a fait et qui fait partie de son œuvre. Mais une des œuvres principales, très clairement, de Jésus-Christ, est d'enseigner. Et c'est ce qu'il a fait ce jour-là, en se mettant dans les meilleures conditions possibles. Verset 3, qui est là. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il règle la sono. Oui, il se met dans les meilleures conditions possibles pour être entendu, et puis aussi il règle l'estrade pour être vu. La plage formant un amphithéâtre et la mer portant la voix. Et tout simplement, selon le verset 1, pour prendre un peu de recul, parce que la foule le presse et la soif d'entendre celui qui parle comme personne d'autre. Puisse cette soif être la nôtre souvent, dès le matin. Soif d'entendre celui qui parle comme nul autre. Verset 3, deuxième partie, et il s'assied pour enseigner. Ce matin, c'est le contraire. Mais à l'époque, c'était comme ça. Celui qui enseignait, le rabbin, en général, s'asseyait. La foule pouvait très bien rester debout. Si c'était long, elle devait finir assise aussi. Mais celui qui enseignait s'asseyait. On le voit au début du sermon sur la montagne, Matthieu 5, avant un long discours. On le voit plusieurs fois avant un enseignement, pas forcément long, mais très solennel. Le maître s'assied. On est dans une culture tout à fait inverse. Il doit y avoir des cultures autour de la terre où les maîtres s'assiedent. Mais pas nous. Quand quelqu'un à l'école quelque chose d'important à dire. En général, il se lève. On avait été inspecté à l'église de Montpellier par quelqu'un qui était assez magistral dans sa façon de faire. On était 4, je crois. Et quand il parlait qu'il y avait quelque chose d'important à dire, il se levait. Jésus, lui, s'est assis selon la coutume. Verset 1, la foule se presse pour l'entendre. Je disais il y a quelques minutes, puisse cela être plus notre attitude, notre expérience, avoir hâte d'entendre encore Jésus. Pour cela, il nous faut le rencontrer, lui. Écouter un prédicateur ne suffit pas. C'est très bien de venir au culte, c'est très bien de lire sa Bible, c'est très bien d'avoir une discipline de vie, mais rien ne va nous donner soif de le connaître, sinon commencer à le connaître. Il nous faut l'écouter, lui, le suivre, lui, pour avoir toujours plus soif de mieux le connaître. On ne sait rien du discours de Jésus, comme assez souvent, on nous dit qu'il a enseigné les foules, et on ne sait rien du discours. Par contre, on sait qu'il a accompagné son discours ce jour-là, comme assez souvent, d'une manifestation, d'un signe, d'un miracle qui accompagne la vérité et qui a fait réfléchir profondément l'apôtre Pierre en particulier. Quelque chose de très spécial va se passer. Cela ne minimise en rien l'importance des discours du Seigneur. Mais cela nous rappelle qu'il peut nous parler de beaucoup de manières différentes. Hébreux nous l'enseigne. Après avoir parlé de plusieurs manières, il a enseigné par le Fils. Mais Dieu a beaucoup de manières pour nous parler. Il peut nous parler par des circonstances. Ce que les croyants appellent quelquefois le hasard, avec un D majuscule, belle trouvaille. Il peut nous parler par une voix intérieure. Romains nous enseigne que l'esprit parle à notre esprit. Il peut nous parler par des frères et sœurs, par un chant. Il m'a parlé ce matin, j'espère, à beaucoup d'entre nous, par l'une ou l'autre ligne particulière d'un chant, par un poème, et quelquefois par un signe fort, comme ce jour-là. Écoutons Dieu, remarquons tout ce qu'il utilise pour nous parler. Quelqu'un m'a dit, donne des exemples. Un ou deux. Il y a 35 ans, j'arrivais de mon grand village, Rochelet-Blamont. Quoi vous riez ? À Paris, plus grand village. Assez perdu, le petit bonhomme. Il descend dans le métro. Il monte dans une rame au hasard. Et il s'assied au hasard, à côté de Madame Pretzel de l'église de Colombes, petite église évangélique de la région parisienne. Quel bol d'air pour le petit bonhomme. Un hasard. Permis par Dieu, quand même. Je sais, il n'y a que 5 millions de personnes, 2-3 millions intramuros, une dizaine avec le reste, mais quand même. Recevoir une carte postale de sa maman, la semaine où on a eu plusieurs malaises, parce qu'on a fait des études et que les nuits sont courtes quelquefois. Et comme par hasard, le verset que la maman a choisi est Ésaïe 40, « Les adolescents se fatiguent ». Et se lasse. Les jeunes hommes chancellent. Vécu. Une des seules cartes postales que ma maman m'a envoyée à Besançon. On se voyait tous les dimanches. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ou bien cette voix intérieure dont j'ai parlé. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas Dieu ? Quand vous vous réveillez à 2 heures du matin et que vous vous dites très très fort, mais il faut que je prie pour Tony. Priez pour Tony. Et vous apprenez le week-end suivant, quand vous le voyez, que Tony a vécu une semaine extrêmement douloureuse. Ah bon ? J'ai bien fait de prier. quelques petits exemples. Oui, Dieu nous parle par sa parole et par beaucoup d'autres choses. Écoutons-le. Il y a des cas où ce n'est pas simple de repérer la voix de Dieu, je vous l'accorde. Mais je suis beaucoup plus pénalisé dans ma vie par toutes les fois où je n'ai pas obéi à Dieu qui me disait de faire quelque chose, que par toutes les fois où ce n'était pas assez clair. Il y a beaucoup de fois où ce n'est pas très clair. Mais je répète, ma vie est beaucoup plus pénalisée par toutes les fois où je n'ai pas obéi à la voix de Dieu qui me disait clairement quelque chose, que par tout ce que je n'ai pas facilement discerné. Ce jour-là, qu'est-ce que dit Jésus à Pierre ? En clair, en noir sur blanc, pourrait-on dire. Quelque chose d'extrêmement difficile à accepter par Pierre. On n'a pas d'heure, mais probablement vers la fin de la matinée, ils sont rentrés de leur nuit de travail. Jésus a vu les barques, il a enseigné quelque temps, en général c'était plutôt quelques heures que quelques minutes. Donc on doit être à la fin de la matinée, en gros. Et Jésus, charpentier, dit à Pierre, pêcheur expérimenté, « Va, avance en eau profonde. » Difficile d'obéir. Je ne suis pas pêcheur. Mais j'ai appris, j'ai lu, que la nuit est bien plus favorable que le jour. Donc ils ont travaillé toute la nuit, et maintenant le jour est bien levé. Et puis plutôt pas en eau profonde. Là je ne suis pas pêcheur, mais j'ai deviné un peu la logique. En eau profonde, les poissons, ils vont plutôt au fond. Et où il n'y a pas d'eau profonde, ils remontent. Donc Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. C'était un conseil tellement difficile à recevoir. C'est un peu comme un Franc-Comtois qui donne un conseil à un vigneron alsacien. Oh mon petit gars. Un philosophe qui conseille son garagiste. Alors s'il a deux casquettes, c'est bon, mais sinon, ça fait désordre. Que va faire Pierre ? Un très grand exemple de confiance, de foi et d'obéissance. Avec ces mots incroyables. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Si vous voulez apprendre un verset par cœur ce matin, je vous suggère une partie de verset. Luc 5:5b. Sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a confiance dans son maître, au point qu'il va lui obéir. Parce qu'avoir dire à quelqu'un « j'ai confiance en toi, tu es quelqu'un qui est fiable, quelqu'un que j'apprécie » et ne pas faire ce qu'il nous dit, il y a quelque chose qui cloche. La confiance conduit à l'obéissance et la foi conduit à la soumission. Et plus on obéit, plus on marche avec le maître, plus on expérimente qu'il est vraiment digne de toute notre confiance. Donc Pierre part et fait ce que Jésus lui a dit. Et là, ô surprise, Jésus permet un miracle. Le filet se remplit énormément. La barque déborde, il faut une deuxième barque pour partager la pêche énorme. Nous sommes devant l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, de Jésus-Christ, qui sait tout, qui peut tout, qui voit tout, qui peut faire venir un bon poisson là où il veut qu'il aille. Pierre va expérimenter cela plusieurs fois. Mais ce jour-là, non seulement Pierre est un grand exemple de foi et de soumission, de confiance en Dieu, mais il est un grand exemple d'adorateur. Qu'est-ce qu'il fait Pierre ? Il passe de maître à Seigneur. Verset 5, maître sur ta parole. C'est déjà un titre très honorifique. Mais au verset 8, comment Pierre appelle le maître ? Comment Pierre appelle Jésus ? Seigneur, qui évoque facilement la divinité de celui en qui Pierre reconnaît le Messie. Seigneur. Et qu'est-ce que fait Pierre? J'aimerais qu'on se laisse être étonné pendant une petite minute. Il a obéi à un ordre très difficile à accepter. Il voit les poissons arriver, la barque débordée, les deux barques débordées. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser être la suite de l'histoire? Il aurait pu sauter de joie, non? Prendre des photos, ce n'était pas de l'époque. Mais, ouais, danser, je sais pas. Oui, ce serait possible. Nous, on aimerait voir des miracles pareils. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il tombe à genoux. En reconnaissant son péché. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ce n'est pas un jeu de mots entre péché et pécheur, la pêche et je pêche. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus solennel que cela. Qu'est-ce que le péché vient faire là? L'apôtre Pierre, par l'enseignement de Jésus, ne l'oublions pas, tous les premiers versets, et par ce signe miraculeux, comprend mieux qui est Jésus. Et quand on comprend mieux qui est Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On tombe à genoux devant lui. On reconnaît son péché, et parce que la grâce est forte, on n'est pas du tout écrasé. L'apôtre Pierre la connaissait moins que nous, nous sommes gâtés. Aujourd'hui, nous pouvons tomber à genoux dans l'adoration, dans la repentance, et dans la confiance et dans la paix, parce que le grand Dieu, créateur de tout l'univers, nous accueille et nous pardonne. Puissions-nous tomber à genoux régulièrement devant celui qui est si bon, si grand, qui nous accueille. Nous qui sommes si petits, si pécheurs, si récidivistes. Mais le Seigneur nous accueille. Pourquoi l'apôtre Pierre, ce jour-là, à ce moment-là, est tombé? J'ai donné quelques tentatives de raison. Mais Pierre, il a vu des miracles, il en avait déjà vu des miracles. Pourquoi ça l'a touché particulièrement ce jour-là? Peut-être parce que c'était son terrain. Il était chez lui. Et là, on ne lui raconte pas des histoires. Waouh! Ce qui vient de se passer là, c'est vraiment incroyable. Mais je pense qu'il y a une autre raison qui nous est enseignée par beaucoup de textes bibliques. Le Saint-Esprit a touché Pierre. Il y a des gens qui ont vu des miracles et qui ne sont pas tombés à genoux devant Jésus. Il y en a qui ont vu des miracles et qui ont pris des pierres pour les jeter contre Jésus. Il y en a qui ont vu des miracles et qui ont cherché un moyen de tuer Lazare parce que ce miracle les dérangeait. Il les conduisait à changer d'avis, vous rendez compte? Impensable. Pourquoi Pierre tombe à genoux comme il se doit? Parce que le Saint-Esprit l'a touché. Prions pour que le Saint-Esprit agisse en nous en ce moment même, nous éclaire, nous parle. Obéissons à la voix de Dieu, à son esprit, pour ne pas attrister l'esprit, comme je l'ai trop souvent fait dans ma vie. Obéissons à la voix que Dieu nous fait entendre par son esprit, pour saisir les rencontres que son esprit peut nous offrir, pour que nous puissions vivre les pas suivants. Oui, Pierre est tombé à genoux. Et c'est bien évidemment la meilleure façon de marcher. D'accord, ça fait sourire. C'est bien connu. Mais vraiment, année après année, je le crois plus. Je l'expérimente plus. Il n'y a pas de meilleure façon de marcher que de tomber à genoux devant le Maître. Il y a tellement de choses qui nous dépassent. Il y a tellement de choses qui sont lourdes. Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Comment marcher autrement qu'en cultivant la relation avec le Maître et en tombant à genoux devant lui? En synthèse, conclusion, quelques verbes. Écoutons, reconnaissons, obéissons, adorons. Tout d'abord, écoutons. Ça commence là, n'oublions pas. Asseyons-nous, puisque dans notre culture, c'est plutôt cela, au pied du maître, comme l'avait fait Marie aussi, dans la culture de l'époque. Faisons toujours meilleure connaissance avec lui et avec son enseignement. Qui a soif de progrès dans sa vie? Une grande façon d'être nourri intérieurement, spirituellement, c'est de mieux connaître le Maître. Deuxièmement, reconnaissons. L'apôtre Pierre, grâce à un miracle, je vous l'accorde, mais a reconnu. Et il nous faut reconnaître sa grandeur, notre petitesse, sa majesté, notre indignité, sa sainteté, notre péché. Il nous faut une dose plus grande d'honnêteté et de vérité. Notre relation avec Dieu sera tellement meilleure. Et nos relations les uns avec les autres aussi. On ne peut pas vivre ce que Pierre a vécu là et avoir une attitude déplorable dans la seconde qui suit. Ce n'est pas très gourmand, hein, je parle de seconde. Le jour suivant, oui. Mais dans les secondes qui suivent, on ne peut pas avoir une attitude déplorable avec notre frère ou notre sœur ou notre prochain. Plus on a compris qui est Dieu, plus on a compris qui nous sommes, plus nous reconnaissons notre faiblesse, notre péché, plus nous aurons une attitude juste les uns avec les autres. Premièrement, écoutons. Deuxièmement, reconnaissons. Troisièmement, croyons. Faisons confiance, donc obéissons. Quand le maître nous dit d'aller à l'école, allons-y. Quand le maître nous dit de ne plus aller à l'école, n'y allons plus. Quand le maître nous dit d'aller par les chemins et par les rues, dans des endroits où nous n'aurions peut-être pas choisi d'aller, allons-y. Quand le maître nous dit qu'il est temps de laisser de côté cette habitude qui est très mauvaise, laissons-la de côté. Et s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Je parle d'expérience. Mais faisons-le. Obéissons. Écoutons, reconnaissons, obéissons. Et finalement, adorons. Oui, continuons notre chemin dans la repentance et dans l'adoration. Des mots tellement beaux. La repentance et l'adoration. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Je vous invite à un temps de recueillement maintenant.